Chapitre 44. Quand elle entendit le corbeau croasser, Gillian leva les yeux vers le ciel d'un bleu limpide. Ses grandes ailes déployées, l'oiseau se laissait porter par des courants invisibles. Alors que Gillian le suivait du regard, l'oiseau croassa de nouveau, un son rauque qui se répercuta un peu partout dans le paysage désolé où collines et ravins se succédaient avec une accablante monotonie. Gillian ramassa le petit lézard mort qui gisait sur le mur à demi écroulé à côté d'elle, puis elle entreprit de remonter la piste poussiéreuse. Le corbeau décrivait maintenant de grands cercles au-dessus de la fillette. Bien entendu, il avait dû la voir très longtemps avant qu'elle ait conscience de sa présence. Tenant le lézard mort par la queue, Gillian se dressa sur la pointe des pieds et leva le bras, présentant son offrande au ciel. Dès qu'il aperçut la petite bête morte, le corbeau s'immobilisa comiquement en plein vol. On eût dit qu'il venait de trébucher, mais c'était impossible quand on était en l'air, bien entendu. Dès qu'il eut recouvré ses esprits, l'oiseau piqua vers le sol, les ailes partiellement repliées pour gagner de la vitesse. Gillian s'assit sur le mur en ruine qui longeait ce qui était autrefois une voie pavée. Au fil du temps, la poussière avait recouvert cette route, formant des couches si épaisses que de la végétation avait commencé à pousser. Quelques arbres rabougris, des cactus et des mauvaises herbes increvables. Selon le grand-père de Gillian, ce décor minable faisait partie d'un endroit très spécial et très ancien. L'âge de ce site n'était pas facile à déterminer. Quand elle était plus jeune, Gillian avait un jour demandé à son grand-père si ce lieu avait le même âge que lui. Le vieil homme avait éclaté de rire. Même s'il n'était plus de la première jeunesse, il devait bien l'avouer, ça n'avait rien de comparable. D'ailleurs, il fallait beaucoup plus qu'une vie d'homme pour que la nature reprenne ainsi ses droits sur une construction humaine. Pour que ça advienne, un manque total d'entretien devait s'ajouter au passage des ans. Ici, la nature avait tout le temps qu'elle pouvait vouloir. Et puisqu'il ne restait pratiquement personne, l'absence d'entretien allait de soi. Cette cité fantôme était jadis habitée par les ancêtres de Gillian. Des gens mystérieux qui avaient bâti l'incroyable ville sur un promontoire, au-delà des grandes flèches de pierre. Le grand-père de Gillian était un devin. Voyant qu'elle adorait entendre ses histoires et ses légendes, le vieillard lui avait proposé de la former afin qu'elle prenne un jour sa place. Bien entendu, elle devrait être prête à fournir un gros effort. Gillian était très excitée à l'idée de devenir un membre respecté de son peuple, quelqu'un dont on admirerait l'érudition, en particulier sur les mystères du passé. En même temps, elle n'aimait pas penser au jour où elle succéderait pour de bon à son grand-père, parce que pour cela, il faudrait qu'il meure. Loki se posa à côté de Gillian et plia ses ailes noires brillantes. Aussitôt, la fillette oublia sa méditation sur le passé, les grands constructeurs de villes, les guerres dévastatrices et les fabuleuses réalisations humaines. Le corbeau approcha de sa démarche sautillante. Gillian posa le lézard mort sur le mur et le fit bouger de droite et de gauche. Loki suivit des yeux ce mouvement tentateur. La tête inclinée, il ne se jeta pas sur le festin. Posant d'abord la patte droite, il avançait vers la charogne avec sa prudence coutumière. En règle générale, face à ce qui semblait être un dîner mais qui pouvait se révéler une menace, l'oiseau battait brièvement des ailes puis sautait en arrière plusieurs fois, probablement pour inciter un éventuel adversaire à se démasquer en l'attaquant. Mais là, il continua à avancer. Se colla au bras de Gillian et prit dans son bec la manche de sa tunique en daim.
« Loki, que t'arrive-t-il ? »
Le corbeau tira frénétiquement sur la manche de la fillette. D'habitude, il aimait jouer avec les lanières de cuir qui décoraient le vêtement, mais il ne s'amusait pas, c'était facile à voir.
« Que veux-tu ? »
L'oiseau lâcha la manche de Gillian et leva la tête pour river sur elle un de ses yeux noirs brillants. Les corbeaux étaient réputés pour leur intelligence, la fillette le savait, mais jusqu'où allait celle-ci? Parfois, Loki se comportait plus subtilement que beaucoup de gens. Les plumes qui couvraient son jabot se gonflèrent soudain agressivement. Comme s'il enrageait de ne pas pouvoir parler, il lâcha un croassement indigné, battit une ou deux fois des ailes et manifesta de nouveau son irritation par un cri grinçant. Gillian caressa la tête puis le dos du corbeau, le gratouillant assez vigoureusement sous son plumage noir gonflé, une attention dont il raffolait, avant de le lisser de nouveau. Au lieu de gazouiller de bonheur, comme d'habitude, Loki bondit en arrière, sautilla sur place et lâcha une série de croassements qui firent froid dans le dos à la fillette. Les tympans agressés, elle se plaqua les mains sur les oreilles.
« Que t'arrive-t-il aujourd'hui ?»
Loki continua son manège. Puis il prit son envol, passa au-dessus de l'ancienne route, se posa au sommet, trépigna d'impatience, redécolla, décrivit quelques cercles et se posa encore. Gillian se leva.
« Tu veux que je vienne avec toi ?»
Le corbeau croassa allègrement, comme s'il était ravi que la fillette ait enfin capté le message. Gillian rit de nouveaux éclats. Elle aurait parié que ce drôle d'oiseau comprenait tout ce qu'elle disait et était même capable de lire ses pensées à l'occasion. Elle adorait la voir avec elle. Très souvent, quand elle lui parlait, il restait bien gentiment à ses côtés, l'écoutant pendant des heures. Le grand-père de Gillian lui avait dit de ne pas laisser le corbeau dormir dans sa chambre. Sinon, avait-il prévenu, l'oiseau connaîtrait ses rêves. Mais Gillian faisait des songes merveilleux et elle ne voyait pas d'inconvénient à les partager avec Loki. Au contraire, quand elle se réveillait, elle se réjouissait de le voir dormir paisiblement sur le rebord de sa fenêtre. En revanche, elle prenait bien garde à ne jamais lui transmettre de cauchemars.
« Tu as déniché un cadavre d'antilope, une carcasse de lapin? C'est pour ça que tu n'as pas faim ?»
Gillian brandit un index accusateur sur son ami.
« Tu n'as pas encore pillé le garde-manger d'un autre corbeau ?»
Loki était affamé en permanence. Quand elle y consentait, il partageait de bon cœur les repas de Gillian. Lorsqu'elle n'était pas d'accord, il était capable de lui enlever la nourriture de la bouche. Même s'il était trop repu pour dévorer le lézard, pourquoi ne s'en emparait-il pas pour aller le cacher quelque part? Les corbeaux mettaient de côté tout ce qu'ils jugeaient comestible, à savoir beaucoup de choses, parce qu'ils étaient des trous sans fond. Souvent, Gillian se demandait comment Loki faisait pour ne pas être obèse. Alors que l'oiseau venait de s'envoler, pressé qu'elle le suive, la fillette prit le temps d'épousseter sa robe et ses genoux un peu trop osseux à son goût.
« Très bien, très bien »
grogna-t-elle. Écartant les bras pour assurer son équilibre, elle marcha comme un funambule au sommet du mur, longeant bientôt un enclos jonché de débris. Au sommet de la petite butte, elle s'immobilisa, une main sur la ceinture en tissu nouée autour de sa taille et l'autre en visière devant ses yeux pour ne pas être ébloui par le soleil. Loki faisait des acrobaties aériennes pour attirer l'attention de son ami. Ce corbeau était un cabotin de première. Quand il ne pouvait pas impressionner ses congénères, il improvisait une représentation au bénéfice de Gillian.
« Oui, oui, » dit la fillette, « tu es un oiseau très malin, Loki. »
Le corbeau croassa, une seule fois, puis battit frénétiquement des ailes. Se protégeant toujours les yeux, Gillian le regarda voler vers le sud, en direction de la grande plaine qui s'étendait au pied du promontoire. Flanquée de chaînes de montagnes, ou plutôt de leurs contreforts, cette vaste langue de désert semblait devoir continuer jusqu'au bout du monde. Mais c'était une illusion. Au-delà, très loin au sud, se dressait une grande barrière. L'ancien monde, un lieu depuis longtemps interdit, s'étendait derrière cet obstacle terrifiant. Dans le lointain, mais au cœur d'une zone où poussait encore une riche végétation, Gillian distinguait l'avant-poste où son peuple résidait en été. Leurs brèches obstruées par des planches, des enclos en pierre empêchaient les cochons, les chèvres et les volailles de s'éparpiller dans le village. En liberté surveillée, une partie du bétail paissait dans de grands champs. Il y avait de l'eau là-bas et quelques arbres dont le feuillage brillait au soleil. Des jardins s'alignaient près des maisons en briques qui résistaient depuis des siècles aux rigueurs de l'hiver et aux excès inverses de l'été. Soudain, alors qu'elle suivait toujours du regard les évolutions de Loki, Gillian vit le nuage de poussière, à l'ouest. De si loin, il semblait minuscule et on aurait cru qu'il ne bougeait pas. Mais c'était une illusion d'optique. Même de là, Gillian pouvait affirmer que cette colonne grisâtre était très large et très haute. À cette distance, on ne pouvait rien dire de précis sur sa nature. Sans l'intervention de Loki, Gillian l'aurait sans doute repéré beaucoup plus tard. La fillette n'avait jamais rien vu de pareil, et ça l'inquiétait beaucoup. S'agissait-il d'un cyclone ou d'une tempête de sable? Non, pour un cyclone, le phénomène était trop large, et une tempête de sable ne montait pas lentement vers le ciel de cette façon. Même quand elle était très haute, sa base ventrue ressemblait toujours à un énorme nuage sombre qui courait sur le sol, car c'était là que les vents tourbillonnants se chargeaient en sable et en débris divers. Non, ce qu'elle voyait n'avait rien d'un phénomène météorologique. Ce nuage de poussière était soulevé par des cavaliers, tout simplement. Des étrangers, beaucoup plus d'étrangers qu'elle pouvait en imaginer. Une horde telle qu'on en trouvait seulement dans les histoires de son grand-père. Gillian sentit que ses genoux tremblaient. La peur lui nouait la gorge et pourtant elle avait une envie folle de crier.
C'était eux, les étrangers dont son grand-père prédisait depuis toujours la venue. Eh bien, ils étaient là, maintenant.
Les gens ne mettaient jamais en question les propos de leur devin, pas devant lui en tout cas, mais ils ne s'inquiétaient pas vraiment à cause de ce qu'il prédisait. Après tout, ils vivaient en paix et personne ne venait les embêter. Gillian se fiait aux propos de son grand-père. Ainsi, elle savait depuis toujours que les étrangers viendraient. Mais elle s'était rassurée en pensant que ce serait dans un lointain futur, quand elle serait vieille, ou mieux encore, longtemps après qu'elle aurait quitté ce monde. Dans ces très rares cauchemars, la horde ennemie déferlait sur le village alors qu'elle était encore enfant, mais elle oubliait très vite les mauvais rêves. Aujourd'hui, la colonne de poussière claironnait que le temps des 12 illusions était révolu. De sa vie, Gillian n'avait jamais vu l'ombre d'un étranger. À part son peuple, nul ne s'aventurait jamais dans les étendues désertiques du profond néant. Tremblante de peur, Gillian comprit qu'elle était sur le point de voir une multitude d'étrangers,
les envahisseurs des histoires de son grand-père. C'était beaucoup trop tôt. Elle n'avait pas encore pu aimer, fonder une famille, se forger une vie.
Gillian regarda derrière elle. À travers les larmes qui brouillaient sa vision, elle observa les ruines. Ses ancêtres avaient-ils également vu fondre sur eux une horde d'étrangers, comme dans les histoires de son grand-père? Des larmes creusèrent des sillons dans la poussière qui maculait les joues de Gillian. Avec une terrible certitude, elle savait que sa vie était sur le point de changer. Ses rêves ne seraient plus jamais merveilleux. Elle sauta du tas de gravats où elle était et dévala la pente, dépassant l'ancien mur d'enceinte, les ruines de quelques bâtiments et les trous béants qui constituaient les derniers vestiges d'autres constructions. Alors qu'elle courait dans les ruines de ce qui était jadis l'avant-poste d'une mégalopole, un petit nuage de poussière soulevé par ses pieds faisait comme un écho à la colonne menaçante qui avançait dans les plaines. En remontant les rues désertes, Gillian avait souvent tenté d'imaginer à quoi ressemblaient ces lieux à l'époque où les habitants cuisinaient dans leurs maisons, pendaient leur linge aux fenêtres, commerçaient sur la place du marché et arpentaient jour et nuit les avenues et les allées. Aujourd'hui, il n'y avait plus personne. Les habitants de l'avant-poste étaient morts depuis des lustres, la cité avait fini d'agoniser et il n'y avait pas âme qui vive dans les bâtiments, sauf lorsque quelques membres du peuple de Gillian s'y installaient pour un moment. Alors qu'elle approchait des maisons investies par les siens, Gillian vit que des gens couraient en tous sens en s'apostrophant. Elle comprit que certains rassemblaient leurs affaires, tandis que d'autres s'occupaient des animaux. Un exode se préparait, peut-être vers les montagnes ou en direction du désert. Ce n'était pas la première fois que la fillette assistait à pareille débandade. Jusque-là, la menace était toujours révélée imaginaire. Aujourd'hui, elle était bien réelle. Gillian se demanda si ses semblables et elle allaient disposer d'assez de temps pour se cacher avant l'arrivée des étrangers. Par bonheur, les membres de son peuple étaient forts et agiles. De plus, ils avaient l'habitude de se déplacer dans la région. Comme le disait son grand-père, personne d'autre n'aurait survécu dans un endroit si hostile. Pour cela, il fallait connaître comme sa poche l'école, avoir en mémoire tous les points d'eau et connaître les passages qui serpentaient au milieu de canyons apparemment infranchissables. Grâce à leurs multiples talents, Gillian et les siens pourraient se cacher dans ces terres dévastées et survivre. Certains le pourraient en tout cas.
D'autres, comme son grand-père, n'avaient plus la force et l'agilité requises. L'angoisse lui nouant les entrailles, Gillian accéléra encore le pas. En approchant, elle vit des hommes occupés à fixer sur le dos de leurs mules des sacs de vivres et des outres d'eau. Pendant ce temps, les femmes collectaient les ustensiles de cuisine, remplissaient d'autres outres et dépendaient le linge mis à sécher sur des cordes. Les préparatifs du départ étant très avancés, Gillian supposa que ces gens étaient informés depuis un moment de l'arrivée des étrangers.
« Maman !»
cria-t-elle lorsqu'elle aperçut sa mère près d'une mule qui disparaissait presque sous son chargement.
« Maman !»
La mère de la fillette sourit et écarta les bras. Même si elle avait passé l'âge de se faire cajoler ainsi, Gillian se blottit contre sa mère comme un poussin sous l'aile d'une poule.
« Gillian, va chercher tes affaires, vite !»
Consciente que ce n'était pas le moment de discuter, Gillian s'arracha à la protection maternelle, essuya les larmes qui roulaient sur ses joues et courut vers le carré de petits bâtiments que son peuple habitait pendant l'été. Après les assauts de l'hiver, il fallait souvent réparer ou remplacer les toits. À part ça, les maisons étaient telles que les avaient construites les anciens, qui avaient jadis fondé et peuplé les avant-postes et la cité de Casca, aujourd'hui abandonnée. Dès qu'elle fut arrivée, Gillian aperçut son grand-père, assis dans les ombres de la porte. Voyant qu'il ne contribuait pas aux préparatifs, Gillian se pétrifia de terreur. Puis, elle dut se rendre à l'évidence. Le vieil homme ne pourrait pas participer à l'exode. Fatigué et fragile, il resterait sur place avec les autres vieillards parce qu'il n'avait plus d'assez bonnes jambes pour courir. Gillian se jeta dans les bras de son grand-père et éclata en sanglots.
« Allons, allons, ma chérie, nous n'avons pas le temps de pleurer ainsi. »
Le vieil homme tapota gentiment le dos de la fillette pendant qu'elle tentait de se ressaisir. À son âge, elle n'aurait pas dû pleurer ainsi, c'était vrai, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher.
« Grand-père, »
dit-elle quand elle fut un peu remise de ses émotions,
« Loki m'a fait voir les étrangers qui arrivent par la plaine. »«
Je sais, c'est moi qui l'ai envoyé. »«
Vraiment ?»
Ce fut tout ce que Gillian trouva à dire. Son monde s'écroulait et elle avait du mal à réfléchir. Mais elle nota quand même que le vieil homme n'avait jamais utilisé ainsi l'oiseau. Elle n'aurait pas cru qu'il en était capable, mais avec lui, il ne fallait s'étonner de rien.
« Gillian, écoute-moi bien. Ce sont les étrangers dont je t'annonce depuis toujours la venue. Les nôtres vont quitter le promontoire et se cacher, enfin, ceux qui sont encore assez jeunes pour ça.
Combien de temps devront-ils se cacher?
C'est impossible à dire. Les cavaliers qui approchent ne sont que l'avant-garde des envahisseurs.
Tu veux dire que d'autres viendront? Mais ils sont déjà si nombreux. Je n'avais jamais vu une telle colonne de poussière, et il peut y avoir encore plus d'envahisseurs?
Le vieil homme eut un sourire amer.
« Ce sont des éclaireurs, rien de plus. Ils ne connaissent pas ce grand territoire désolé, et ils y cherchent des routes. Ils doivent aussi vouloir déterminer s'ils rencontreront une résistance. Le gros de la horde n'est pas encore là, mais cette avant-garde est très dangereuse. Tous ceux d'entre nous qui sont valides doivent s'enfuir. Mais tu ne pourras pas aller avec eux, Gillian. »«
Quoi ? Je... »
« Les temps dont je te parlais sont là, ma chérie. »«
Papa et maman ne voudront pas que... »«
Tes parents feront ce que je leur dirai de faire, comme tous les nôtres. »« L'enjeu est beaucoup plus important que tout ce qu'a connu notre peuple, du moins depuis l'époque où nos ancêtres vivaient dans la cité. »« Aujourd'hui, cet enjeu nous concerne comme dans l'ancien temps. »«
Très bien, grand-père. »
Gillian hocha humblement la tête. Elle tremblait de peur, mais il n'était pas question qu'elle déçoive son grand-père. Le sens du devoir s'éveillait en elle, comme il le prévoyait sans doute depuis toujours.
« Que dois-je faire ? » ?»«
Tu vas devenir la prêtresse des ossements, celle qui transmet les rêves. »«
Moi ? » ?»«
Oui, toi. » »«
Je suis bien trop jeune, grand-père, et pas assez formée. »
« Nous sommes à court de temps, mon enfant, et c'est ta mission. Je t'ai appris beaucoup de choses sur l'art de la divination. Tu crois être mal préparé et pas assez mûr, et il y a une part de vérité en cela, mais tu en sais bien plus long que tu le penses. De toute façon, il n'y a pas d'autre candidate. C'est ton sacerdoce, petite. »
Gillian sentit qu'elle avait les yeux écarquillés, mais elle ne réussit pas à battre des paupières. Elle n'était pas à la hauteur, ça tombait sous le sens. En même temps, elle éprouvait un discret mélange d'excitation et d'enthousiasme. Son peuple avait besoin d'elle. Plus important encore, son grand-père dépendait d'elle, et il semblait croire qu'elle réussirait.
« Je comprends, grand-père. »«
Je te préparerai à rejoindre les morts, puis tu devras te cacher parmi eux et attendre. »
Gillian tremblait de plus en plus fort. Elle n'était jamais restée seule parmi les morts.
« Grand-père, tu crois vraiment que je suis prête pour un tel exploit ? Me dissimuler parmi les morts et guetter l'un d'entre eux ?»«
Tu es aussi prête que possible, et je ne peux rien faire de plus pour toi. » J'espérais avoir plus de temps afin de te dispenser mon enseignement sur d'autres aspects de la vie, mais sur ce qui compte le plus, la mort, je t'ai transmis les connaissances requises. »
Dehors, des hommes et des femmes continuaient à préparer le départ. En travaillant, ils prenaient garde à ne pas sonder les ombres de la porte cochère, car ce qu'ils risquaient de voir les aurait peut-être transformés en statues de sel.
« Pour être franc, » reprit le grand-père de Gillian, « ces événements m'ont pris au dépourvu, comme toi. Je n'ai jamais cru qu'ils se produiraient de mon vivant. Je me souviens de l'époque où mon grand-père me racontait les histoires que je t'ai répétées des décennies plus tard. Je n'ai jamais pensé que ces divinations seraient confirmées de mon vivant. Désireux de m'aveugler, je les situais dans un avenir trop lointain pour me déranger vraiment. » Mais les temps sont révolus, et nous devons nous efforcer d'honorer nos ancêtres. Comme les divinations l'exigent, nous devons être prêts et disponibles.
Et combien de temps vais-je devoir attendre?
Je ne peux rien te dire sur ce point. Tu dois te dissimuler parmi les morts. Comme les devins le font depuis des siècles, nous avons tous les deux caché de la nourriture, à la manière de Loki en somme, et tu auras tout ce qu'il faut pour te remplir la panse. Mais tu peux pêcher et chasser si ça t'amuse et qu'il n'y a aucun danger dehors.
Je comprends, grand-père. Mais pourquoi ne te caches-tu pas avec moi?
Je te conduirai là-haut, je t'aiderai à te préparer et je te dirai tout ce que je sais. Ensuite, je devrais revenir ici avec les autres vieillards pour tromper les étrangers en les accueillant poliment pendant que les jeunes se cacheront. C'est grâce à ça que tu pourras te dissimuler parmi les morts. Je ne suis pas assez agile pour échapper à ces hommes, ni assez petit et souple pour me glisser dans un endroit exigu où ils ne me trouveront pas. Il faudra donc que je revienne jouer mon rôle.
Et si les étrangers te font du mal ?
Il est possible qu'ils me maltraitent. Ces hommes sont capables de toutes les bassesses, c'est pour ça que l'enjeu dont je parlais tout à l'heure est si important. À cause de leur cruauté, nous devons être forts et ne pas capituler devant eux. Même si je meurs, j'aurai gagné le temps dont vous avez besoin. Mais ne me pleure pas déjà, parce que je ferai tout mon possible pour m'en sortir vivant.
Tu n'as pas peur de mourir, grand-père ?
Cette idée me terrorise. Après une vie longue et bien remplie, je suis prêt à me sacrifier pour que tu aies une chance d'avoir un jour des cheveux blancs.
Mais je voudrais que tu restes avec moi pour toujours.
Moi aussi, ma chérie. J'aimerais te voir devenir grande et avoir des enfants. Mais ne t'inquiète pas trop pour moi. Je ne suis pas sans défense et je n'ai rien d'un idiot. Je m'assiérai à l'ombre avec les autres vieillards, et les envahisseurs ne nous trouveront pas menaçants. Pour les amadouer, nous raconterons que les jeunes se sont enfuis et que nous n'avons pas pu les suivre. Selon moi, ils seront trop affairés pour avoir le temps de nous torturer. Tout ira bien, tu verras. Pense à ta mission et ne t'en fais pas pour moi. »
Ce petit discours rassura un peu Gillian.
« D'accord, grand-père. »
« En plus, Loki sera avec toi et il transportera mon esprit avec lui. Du coup, ça sera presque comme si je veillais sur toi.
Bien. Filons nous préparer maintenant.
Après que le vieil homme leur eut annoncé que leur fille devait rejoindre les esprits des anciens et garantir la sécurité de son peuple, les parents de Gillian furent autorisés à lui dire rapidement au revoir. Comprirent-ils l'importance de la mission confiée à leur enfant? Avaient-ils trop peur pour protester? Quoi qu'il en fût, ils embrassèrent la fillette et lui souhaitèrent bonne chance jusqu'à leur très prochaine retrouvaille. Soudain silencieux, le grand-père ouvrit la marche alors que Gillian regardait encore derrière elle pour suivre ses parents des yeux. Le vieil homme guida la fillette sur d'anciennes routes qui serpentaient le long du promontoire. Ils passèrent devant des avant-postes et des bâtiments abandonnés, montant toujours plus haut d'un pas régulier. Dans leur dos, derrière la colonne de poussière qui grossissait à vue d'œil, le soleil sombrait déjà à l'horizon occidental. Gillian frissonna. Avant que le soleil ait fini de se coucher, beaucoup de gens qu'elle connaissait et aimait risquaient d'avoir quitté ce monde. En fin d'après-midi, les ombres s'allongeaient démesurément dans le défilé que la fillette et son grand-père remontaient à présent. À chaque détour de la piste, le décor devenait de plus en plus sinistre. De la roche grise, des cailloux, et de plus en plus souvent, les ossements de petits animaux. La plupart étaient les restes de proies tuées par les coyotes ou les loups.
Gillian dut se concentrer pour ne pas imaginer ses propres os blanchis gisant sur le sol. Dans le ciel, Loki dessinait de grands cercles au-dessus des deux voyageurs qu'il ne quittait pas du regard.
Quand ils furent au sommet du promontoire, abordant les premières flèches de pierre, le corbeau s'amusa à slalomer entre ses imposants piliers. Il avait assez souvent accompagné ses deux amis jusqu'à la ville morte pour ne plus être impressionné.
Même si elle était venue très souvent ici, Gillian, elle, aurait juré que c'était la première fois. Car aujourd'hui, c'était la prêtresse des ossements, celle qui transmettait les rêves, qui allait entrer dans la cité.
À un endroit où un cours d'eau suivait une route sinueuse qui plongeait jusqu'au fond du canyon abrupt, le grand-père de Gillian s'arrêta et fit signe à la fillette de s'asseoir. Ici, les parois du canyon étaient droites comme des murs d'enceinte et pratiquement aussi lisses. En cas de crue, il n'y avait pas moyen de s'échapper. Mais ce n'était pas pour ça que ce défilé était mortellement dangereux. Lorsqu'on s'y enfonçait, les ravins et les défilés secondaires qui se succédaient formaient un labyrinthe minéral où il était facile de tourner en rond jusqu'à ce que mort s'en suive. Heureusement, Gillian aurait pu trouver la sortie les yeux bandés. Quand elle se fut assise, son grand-père ouvrit la sacoche accrochée en permanence à sa ceinture. Il en sortit un morceau de toile goudronnée soigneusement plié, l'ouvrit et plongea un index dans la substance noire visqueuse qu'il contenait.
« Tiens-toi tranquille pendant que je te peins le visage. » C'était la première fois que Gillian avait droit au masque rituel.
Elle connaissait son existence grâce aux histoires de son grand-père, mais elle n'avait jamais espéré, même dans ses rêves les plus fous, devenir la prêtresse des ossements.
Alors qu'elle se concentrait pour faciliter la tâche à son grand-père, la fillette songea que tout était arrivé bien trop vite. Depuis quelques heures, elle n'avait plus eu une minute pour réfléchir à ses actes et à ses décisions. Au milieu de l'après-midi, son seul souci était de trouver une petite gâterie pour Loki, et voilà que tout le poids du monde reposait à présent sur ses épaules.
« Viens voir le résultat, »
dit le vieil homme quand il eut terminé.
Gillian se leva et alla s'agenouiller au bord d'un petit point d'eau.
Elle ne put s'empêcher de crier. Le reflet de son visage était terrifiant. Une bande noire couvrait ses yeux, comme si on les lui avait voilés, mais elle pouvait voir à travers, et ses yeux couleur cuivre brillaient bizarrement au milieu de ce loup des plus étranges.
« À partir de maintenant, les esprits du mal ne pourront plus te voir. Marche sans crainte parmi nos ancêtres. »
Gillian se releva avec le sentiment de ne plus être la même personne. Le visage qu'elle venait de voir était celui de la prêtresse, plus le sien. Bien qu'elle en eût entendu parler par son grand-père, elle n'avait jamais vu la femme chargée de transmettre les rêves. Et voilà que c'était elle maintenant.
« Ce masque me dissimulera vraiment, grand-père ?
Grâce à lui, tu seras en sécurité, oui. »
Gillian se demanda si Loki aurait peur d'elle ou s'il la reconnaîtrait.
« Viens, » dit le vieil homme. « Je dois t'accompagner là-haut, puis redescendre le plus vite possible. »
Après avoir traversé le champ de grandes flèches, Gillian et son grand-père sortirent du canyon, dépassèrent quelques murs défensifs extérieurs et ne tardèrent pas à se trouver devant les fortifications principales de Casca. Ils n'étaient pas très loin du cimetière, se souvint la fillette.
« Montre-moi le chemin, petite. Tu es chez toi à présent. »
Gillian acquiesça et se dirigea vers la mégalopole colorée de rouge par les ultimes rayons du soleil couchant. C'était une vision magnifique, comme toujours, mais la fillette, pour la première fois, la trouva angoissante, comme si elle la voyait d'un œil nouveau. Depuis que son grand-père avait achevé le rituel, elle se sentait très fortement liée à ses ancêtres, et ça expliquait sans doute sa tendance à percevoir les choses différemment. Ici, les grands bâtiments avaient à peine souffert des intempéries et du passage des ans. Au fond, Gillian n'aurait pas été surprise d'apercevoir des silhouettes derrière les fenêtres. Certaines résidences, peut-être même des palais, étaient immenses et souvent flanquées de hautes tours qui semblaient vouloir partir à l'assaut du ciel. À chaque étage, des dizaines de fenêtres en arche égayaient la façade de ces chefs-d'œuvre d'architecture. Gillian avait visité certains de ces bâtiments en compagnie de son grand-père. À l'intérieur, les pièces étaient empilées les unes sur les autres et il fallait emprunter un escalier pour passer d'un niveau à l'autre. Les antiques architectes avaient accompli un exploit. Vu de loin, à la lumière de la fin d'après-midi, Casca était un authentique joyau. Dès que son grand-père serait parti, Gillian allait devoir arpenter les rues avec pour seule escorte les fantômes des anciens habitants de la mégalopole. Grâce au masque de prêtresse des ossements peint par son grand-père, la fillette était un peu rassurée, mais elle n'en menait cependant pas large. Bientôt, elle devrait transmettre les rêves aux étrangers. Si elle le faisait bien, ils auraient tellement peur qu'ils s'enfuiraient plus vite que le vent. Alors le peuple de Gillian serait sain et sauf. Mais les anciens habitants de la cité avaient jadis tenté la même manœuvre, et ils avaient échoué.
« Tu crois qu'ils seront trop nombreux ?»
demanda la fillette, les sangs glacés au souvenir des récits qu'elle avait entendus sur la terrible défaite des anciens.
« Trop nombreux, que veux-tu dire ?»«
Eh bien, pour être chassés par les rêves ?» « Je suis seul, je manque d'expérience, de maturité et de plein d'autres choses. Je suis simplement moi, quoi. »
Le vieil homme tapota gentiment le dos de sa petite fille.
« Le nombre n'importe pas. Il te fournira toute la force dont tu auras besoin. Mais n'oublie pas, petite, les oracles disent que tu devras être au service de cet homme. Il deviendra ton maître. »
La fillette acquiesça gravement alors que son grand-père et elle entraient dans le grand cimetière. Au premier niveau, les tombes étaient simplement signalées par des pierres. À mesure qu'on montait, dépassant des rangées et des rangées de sépultures, on rencontrait des monuments de plus en plus impressionnants. Les plus cossus étaient surmontés de grandes statues qui représentaient sans doute les défunts. Souvent, on y voyait aussi la flamme de la vie qui symbolisait la lumière du Créateur. Gillian lut sur quelques pierres des déclarations d'amour éternel qui lui serrèrent le cœur. Sur certains grands monuments, la famille avait simplement gravé une grâce géante. Enfin, parangon de sobriété, de rares chapelles arboraient pour tout ornement le nom du défunt. Au cœur de la grande résidence des morts, près du point le plus haut, là où les arbres étaient plus grands mais plus tordus, ils arrivèrent devant un très grand monument de pierre, surmonté par une vasque remplie de fruits en pierre d'où débordaient des grappes de raisins. Chaque fois qu'il l'amenait devant cette sépulture, où il aimait lui révéler des oracles, le grand-père de Gillian lui rappelait que la vasque symbolisait la fécondité de la vie et la créativité infatigable de l'humanité. La fillette se pencha sur la pierre tombale, où figurait le nom d'un homme mort depuis très longtemps. Depuis toujours, elle se demandait s'il avait été jeune ou vieux, gentil ou cruel, courageux ou lâche. Loki vint se poser sur les grappes en pierre et gonfla un peu son plumage avant de s'immobiliser. Gillian se réjouit qu'il accepte de lui tenir compagnie dans un endroit tellement sinistre. Tendant un bras, elle suivit du bout d'un index le tracé des lettres gravées dans la pierre.
« Grand-père, tu crois que les oracles sont vrais? Je veux dire, pour de bon ?»«
C'est ce qu'on m'a enseigné. »
« Alors, il reviendra vraiment du royaume des morts pour nous? Il ressuscitera, passant de la mort à la vie ?»
Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, la fillette vit son grand-père tendre à son tour le bras pour toucher respectueusement le socle du monument.
« Oui, il reviendra du néant. »
« Dans ce cas, je vais l'attendre. La prêtresse des ossements sera là pour l'accueillir et se mettre à son service. »
Gillian regarda la colonne de poussière à l'ouest, puis se tourna de nouveau vers la tombe.
« S'il te plaît, dépêche-toi !»
implora-t-elle. Sous le regard de son grand-père, elle passa de nouveau l'index sur les lettres sculptées.
« Sans toi, je ne pourrai pas transmettre les rêves !»
souffla-t-elle comme si elle s'adressait au nom gravé sur la pierre.
« Fais vite, Richard Rall !» J'attends ton retour dans le monde des vivants.